Vous écoutez l'épisode 130 du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS, des Chromebooks et tout ce qui gravite autour. Aujourd'hui, les nouveautés de Chrome et de Chrome OS 122 redéfinissent notre expérience de navigation et d'utilisation des appareils. Elles incluent l'enregistrement de groupes d'onglets, la traduction automatique multilingue, la sécurité renforcée pour les enfants, mais ce n'est pas tout, car l'intelligence artificielle générative révolutionne également l'organisation des onglets, la personnalisation du thème Chrome et même l'assistance à la rédaction sur le web. De plus, Chrome 122 propose des améliorations majeures telles que le screencast avancé et bien d'autres fonctionnalités. Pour aller plus loin ce soir, nous aborderons aussi les implications potentielles du Digital Market Act, le DMA de l'Union Européenne, une réglementation qui pourrait changer la donne pour les géants technologiques comme Google. Alors comment ces évolutions influencent-elles votre quotidien numérique? Restez avec nous pour une exploration en profondeur de ces sujets qui semblent toutes captivantes. Bonsoir à tous, je suis Nicolas, facilitateur numérique, et je suis accompagné de ce soir, je suis accompagné ce soir de Olivier. Bonsoir Olivier, comment vas-tu?
Bonjour, je m'appelle ce soir.
Bonsoir ce soir.
Bonsoir tout le monde.
Tu vas bien?
Ça va.
Bon, bah cool. Avant de plonger dans le cœur du sujet, j'aimerais vous adresser un petit appel, car oui, nous avons besoin de vous. Si vous appréciez notre travail et que vous prenez plaisir à nous suivre au quotidien sur My Chromebook, sur YouTube, sur TikTok ou bien sûr sur tous les autres réseaux sociaux, je vous invite à réfléchir sur la manière de vous voulez nous soutenir. Il est possible à quelques hauteur de quelques euros de nous soutenir via Patreon sur la plateforme patreon.com/mychromebook ou en effectuant des dons sur YouTube comme... je remercie Jean-Luc qui nous a fait son don ce soir. Merci à toi de ton soutien fort et toujours un pilier chez nous. Mais au-delà de l'argent, vous savez... pour nous permettre de souffler, d'apporter d'autres idées, vous pouvez aller partager le CKB Show à tout votre entourage, vos amis, vos collègues, vos ennemis, même ceux que vous aimez pas, tiens, vous pouvez leur coller ça. Pour ça, vous allez juste aller sur ckbshow.fr, ckbshow.fr/go, et automatiquement, ça ouvrira la plateforme qu'ils utilisent pour écouter du podcast, et vous aurez plus qu'à cliquer sur s'abonner, et ils pourront enfin écouter tous les bons conseils qu'on peut leur donner sur Chrome OS, sur Chromebook, mais bien sûr sur tout ce qui gravite autour de Google. Donc allez-y, soutenez-nous en proposant nos services à tout le monde autour de vous. Olivier, est-ce que tu as déjà forcé tes collègues, tes amis à nous écouter?
Non, j'ai eu la surprise de découvrir que certains écoutaient le podcast en différé.
Ah bah écoute, c'est très bien. Alors bonsoir aux collègues ou aux amis d'Olivier. On vous souhaite une agréable soirée ou une bonne journée. Je ne sais pas s'ils écoutent ça pendant le travail. Avant d'aller dans la suite du sujet, je souhaite un bonsoir à Méziana, à Didier, à Mister Robot, à Dominique, à Alain et tous les autres qui ne nous ont pas mis encore un petit coucou. N'hésitez pas à nous laisser un petit coucou, évidemment. Comme d'habitude, une petite, on laisse quoi, des pouces en l'air. Vous laisserez un commentaire à la fin de l'épisode si ça vous a plu. Posez des questions parce qu'on va avoir des choses hyper intéressantes ce soir qui vont bouleverser pas mal de choses autour de nous, autour de vous également. Et je ne peux que vous inviter à échanger avec nous. Alors, Olivier, si tu le permets, je vais commencer par égrener les nouveautés qui sont basées autour de Chrome OS et de Chrome 122 parce qu'on a eu quelques évolutions hyper intéressantes. Est-ce que tu en avais vu, toi, qui t'avais, sans en dire trop, qui t'avait plu et que tu attendais avec impatience?
Non, moi j'attendais le podcast pour que tu m'expliques tout. Écoute, moi, j'ai une utilisation du Chromebook assez basique, je suis sur la version stable, ouais. Je cherche pas à explorer les choses avant qu'elles n'arrivent définitivement et consolidées sur la version stable, donc généralement j'écoute les nouveautés via le podcast ou en lisant mychromebook.fr ou en allant sur le Discord et puis je découvre ça une fois que ça arrive sur la version stable. Donc je sais pas si parmi vous il y en a qui font exactement comme moi.
Ouais. Intéressant.
Si vous êtes plus Indiana Jones, plus aventurier dans la découverte des fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure qu'elles arrivent, dites-nous ça dans les commentaires en dessous de la vidéo YouTube, comme ça augmentera le référencement pour le podcast.
Effectivement, et puis ça va montrer aux autres qu'il y a énormément d'évolution. Alors, comme je te le disais, la version 122 est enfin arrivée sur la plupart des Chromebooks et sur Chrome, évidemment. Ça a apporté des améliorations assez notables sur nos usages. Alors, je ne vais pas vous parler de tout ce qui est sécurité, hein, parce que quand on parle de mise à jour, il y a intrinsèquement, il y a des sécurités qui sont mises en place. Je ne vais pas les détailler, c'est un peu trop rébarbatif et hyper important quand même, mais je vais pas les détailler parce que c'est trop long et trop chronophage. Ceci dit, donc, dans la version stable, comme le dit Didier, hein, la version stable, c'est la sécurité. Si vous voulez être des baroudeurs et avoir votre Chromebook qui, une fois sur deux, fait des siennes, allez plus loin. Hein. Alors, la version bêta, hein, c'est pas mal, hein, c'est déjà pas mal stable quand même, même si elle s'appelle bêta. Mais Dev et Canary sont des versions à peut-être bannir si votre Chromebook est un outil professionnel. Pas envie de voir cet ordinateur rebooter au moment où vous faites votre mail le plus important de la journée. Peut-être pas judicieux de passer en dev. Alors, les nouveautés qui sont hyper intéressantes et qui peuvent être imputées à Chrome aussi, moi j'ai mis celle que j'adore vraiment beaucoup. Je vais d'abord parler de Chrome d'ailleurs. C'est l'arrivée de l'enregistrement des groupes d'onglets. Alors, je sais pas si Olivier, tu es comme moi à utiliser les groupes d'onglets dans ton navigateur ou si comme moi tu as à peu près 1 milliard d'onglets qui a apparu au-dessus de ton navigateur web quand tu fais des recherches, quand tu te documentes. Est-ce que tu as déjà pris l'habitude de les regrouper en onglets?
Alors, oui, j'ai de plus en plus d'onglets. Et en fait, je ne sais pas, il doit y avoir une inflation de l'onglet sur mon navigateur. Plus ça va, plus j'en ouvre. C'est une sale habitude. Par contre, alors moi, une des fonctions sur les onglets que j'utilise, c'est le fait d'en épingler. Comme ça, j'ai vraiment les fonctions de base, mon Gmail, mon bullet journal, on en avait parlé une fois dans une émission, qui apparaît tout de suite, et mon agenda. Et puis après, j'ai effectivement, je mets des groupes d'onglets en fonction de l'activité. Effectivement, je vais avoir un groupe d'onglets, par exemple, sur les réseaux sociaux, un groupe d'onglets sur mon CRM au boulot, enfin bref, je vais vraiment regrouper ça comme ça. Ça me permet de le faire. Et effectivement, là, j'ai vu la news quand même que ces onglets, on allait pouvoir enfin les retrouver, ces groupes.
Donc, ouais, ça cool. C'est assez bluffant. Hein. Regrouper ces groupes d'onglets, ben, typiquement, quand j'écris pour My Chromebook, j'ai un onglet qui est le Drive, hein, dans lequel où j'ai tous les fichiers Google Doc, Sheets et compagnie qui sont dans ce Google Drive, hein, partagés avec tous les rédacteurs et les patriotes, hein, d'ailleurs. Hein, si vous êtes patriote, vous pouvez voir tous les articles qui sont en cours d'écriture depuis 5-6 ans d'ailleurs, hein, qui sont toujours pas finalisés, mais vous y avez accès. Les informations ne sont pas mauvaises pour autant, hein, c'est juste que je n'ai pas réussi à trouver le ton ou l'énergie d'écrire cet article-là. Je vais avoir l'article qui est en cours d'écriture, je vais avoir la page web de My Chromebook dans la version administration. Bref, j'ai que ça, et ça j'ai regroupé dans un groupe d'onglets. Alors, pour faire un groupe d'onglets, hein, c'est simple, un clic droit sur un des onglets, vous faites ajouter l'onglet à un groupe, créer un nouveau groupe. Et vous pouvez, en glissant, déposer n'importe quel onglet dans ce groupe d'onglets. On peut lui attribuer un nom et une couleur. Moi, j'adore ça parce c'est top, hein, parce que d'un seul coup d'œil, on sait tout de suite à quel groupe d'onglets fait partir l'onglet, et on peut fermer les onglets, enfin le groupe d'onglets. On clique sur la dénomination du groupe d'onglets et ça va réduire directement tous les onglets qui sont à l'intérieur de ce groupe pour donner un peu de lisibilité, un peu d'air à ton navigateur web, parce que c'est vrai que quand on a beaucoup, on arrive à vite se perdre dans les onglets, et grâce au groupe d'onglets, on peut réduire tout ça et diminuer aussi la charge de RAM utilisé, hein, par les onglets, puisque dès que le groupe d'onglets est fermé, tous les onglets sont passés en inactif par défaut. Donc on rouvre le groupe d'onglets, il repasse en actif, et ça c'est génial. Alors ça existait déjà avant, rien de nouveau de sous le soleil, mais Google vient de donner la possibilité d'enregistrer le groupe d'onglets. Donc une fois que votre groupe d'onglets est créé, vous faites simplement un clic droit dessus, et là vous allez avoir une coche qui s'appelle, un commutateur à activer qui s'appelle enregistrer le groupe. Et ça c'est juste génial. Une fois que vous l'avez enregistré, il apparaît automatiquement dans la barre des favoris, donc de la couleur que vous avez choisi avec le nom que vous avez choisi. Donc moi j'en ai 5, hein, j'ai les réseaux sociaux, j'ai le boulot, j'ai My Chromebook, j'ai le market, enfin j'ai pas mal de groupes d'onglets, et ils apparaissent directement dans les favoris. Et ce qui est vraiment génial, c'est que c'est synchronisé avec votre compte Google. Ça veut dire que à partir du moment où tu rouvres un navigateur web Chrome synchronisé avec ton compte compte Google, tu retrouves tes groupes d'onglets enregistrés dans ta barre de favoris et un simple clic dessus te rouvre le groupe d'onglets sur un autre appareil que celui où tu avais enregistré ton groupe d'onglets. Et ça, je trouve vraiment génial parce que je peux travailler de la même manière avec n'importe quel de mes appareils. Je ne sais pas si tu l'avais vu, cet enregistrement.
On est vraiment dans l'esprit du Chromebook, c'est-à-dire que quel que soit l'ordinateur qu'on utilise, il suffit de se loguer avec son identifiant, à se connecter avec son compte Google et on retrouve son environnement de travail comme sur une autre machine qu'on a utilisée l'après-midi même ou autre. Et ça, c'est vachement bien parce que bah, c'est un gain de temps de fou, hein, l'air de rien. On ne va pas rechercher dans l'historique où est-ce qu'on est allé pour retrouver une info. Il suffit de rouvrir le navigateur et puis on retombe sur les onglets et sur les groupes d'onglets dont on a besoin. Et ça, c'est franchement super pratique.
Ouais. Ouais, c'est génial. Alors pour répondre à Alain, hein, il faut être en version Chrome 122 pour avoir accès au groupe d'onglets, à l'enregistrement de groupe d'onglets. Donc une fois que ton groupe d'onglets est fait, un clic gauche sur le groupe d'onglets, clic droit pardon, sur le groupe d'onglets et enregistrer le groupe. Et il y a un commutateur. Tu le bouges de droite à gauche. Et c'est vraiment génial. Hein, j'adore vraiment le système. J'aime bien le défilement avec les flèches pour les onglets. Nous dit DDPP. Le défilement. Ah oui, effectivement. Ça peut être hyper intéressant également de défiler de l'un à l'autre, ça va vraiment vite, ça donne quelque chose de très interactif et très simple et très fluide à l'usage de son Chrome, enfin de son navigateur Chrome. Donc même si vous n'avez pas un Chromebook, Chrome vous l'avez peut-être, hein, c'est le navigateur web le plus utilisé au monde, donc il y a peut-être une chance que vous l'ayez et allez voir pour enregistrer les groupes d'onglets, c'est vraiment super génial. Est-ce que je t'ai convaincu pour aller enregistrer tes groupes d'onglets? Ah, je t'entends plus.
Oui, oui, clairement, c'est une fonction que je vais utiliser dès demain.
Ok, bon, bah top, nickel. Continuons dans les évolutions de Chrome 122. Nous avons, alors c'est une évolution, vous allez me dire tout de suite, ah oui, mais elle existait déjà avant. Oui, mais non. C'est la possibilité de traduire automatiquement les pages web dans la langue de ton choix. Alors oui, c'était déjà possible. Hein, tu pouvais, quand tu ouvrais une page web, il y avait un petit pop-up qui apparaissait au-dessus pour traduire dans une langue ou dans une autre. Donc ça, c'était déjà, ça existait déjà, mais maintenant...
On avait l'extension Google Traduction, que ça faisait ça, non? Je ne sais pas, je l'ai toujours eu l'extension, donc je me demande si...
Non, je pense que tu peux enlever l'extension, ça marche sans, maintenant. Donc, mais oui, à une période, ça fonctionnait uniquement avec l'extension. Ils l'ont implémenté directement dans le navigateur, donc c'est beaucoup plus simple. Ça se fait directement. T'as un petit pop-up qui est dans l'Omnibox. En fait, tu sais, t'as un petit symbole façon Google, l'icône de Google Traduction qui apparaît dans l'Omnibox. Tu cliques dessus si jamais t'as pas la pop-up pour pouvoir traduire. Mais là où Google veut aller plus loin, c'est qu'il va proposer d'utiliser Google Translate, Google Traduction, pardon. Directement et automatiquement sans même que tu n'aies rien à faire. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu vas sur une page web, qu'elle soit dans la langue du choix que tu as présélectionné dans les paramètres de Chrome, et elle va pouvoir automatiquement se traduire, et tu ne verras même pas qu'elle n'est pas dans ta langue natale, puisqu'elle va automatiquement se traduire à partir du moment où tu vas l'ouvrir. Pour ça, il faut aller dans les paramètres de votre navigateur Chrome, tu sais, les trois petits points en haut à droite de ton navigateur, et dans la partie Google Traduction, tu auras, Traduction, je crois, s'appelle, tu auras une nouvelle partie qui s'appelle Google Traduction. Alors, il te dit, utiliser Google Traduction. Lorsque l'option est activée, Google Traduction vous propose de traduire les sites dans la langue de votre choix. Il peut aussi traduire automatiquement des sites. Alors, ce qui est génial, tu choisis la langue dans laquelle tu veux que ça soit traduit, et puis ensuite tu choisis les langues que tu veux traduire, donc c'est plutôt bien. Si tu as une langue, je ne sais pas, si tu ne parles pas très bien anglais ou tu ne maîtrises pas l'anglais, tu choisis l'anglais, automatiquement dès que le site est en anglais, il te le basculera en français, et ça, c'est plutôt sympa, je pense. Je
sais pas. Mais si par contre, il le signale plus du tout, parce que ça peut être peut-être embêtant, parce que si on veut switcher sur la langue d'origine, parce que Google Translate a ses limites quand même, des fois c'est un peu pas terrible, et ça peut être sympa de pouvoir switcher de l'un à l'autre, donc pour ça il faut qu'on ait au moins un signe qui nous dise « attention, cette page, elle est traduite »,
Alors, quand tu es sur la page qui est traduite, en fait, tu vois l'icône Google Translate qui est dans l'omnibox, donc là où il y a l'URL qui apparaît. Tu peux cliquer dessus et changer et passer sur la langue du site, ouais, si tu le souhaites.
Parce qu'avant, on avait un bandeau qui disait...
Ouais. Ouais. Attention, oui, quand tu passais par Google Translate, il te mettait le bandeau. Non, là, il te le met plus du tout. Effectivement, ça peut être compliqué si la traduction est pas forcément folle, hein, parce que des fois, on le sait, il y a certains mots qui sont mal traduits.
Vivement l'IA sur la traduction, parce que les traductions faites par les GPT et consorts sont quand même d'un niveau bien supérieur à ce qu'on trouve dans Google Translate ou même DeepL, quoi.
Oui, tout à fait. Ouais. Ça va vraiment être sympa quand Gemini sera arrivé peut-être nativement dans Chrome. Ça va être intéressant. Dernière chose pour parler de Chrome rapidement, enfin une autre chose que moi je trouve exceptionnelle, c'est et que j'utilise au quotidien, c'est la sécurité pour les enfants à travers Family Link. Je ne sais pas si tu l'utilises ou tu l'as utilisé. Family Link te permet de définir le temps d'écran, les usages applicatifs que l'enfant peut utiliser sur son smartphone ou sur son Chromebook. Google va un peu plus loin, il va l'implémenter dans Chrome et donner la possibilité aux parents de définir les sites web que l'enfant a le droit de visiter. Donc, parce qu'on ne peut pas interdire accès à Internet aux enfants maintenant, hein, entre l'école, les devoirs, les jeux, hein, pourquoi pas, c'est difficile d'interdire l'accès. Et donc, grâce à ça, tu bloques tout par défaut. Et quand l'enfant a besoin d'accéder à un site web en particulier, il va cliquer sur « Envoyer la demande à mes parents », enfin, au gestionnaire du compte. Et à ce moment-là, le parent reçoit un email ou un SMS et puis tu peux valider, enfin un email ou un Family Link, donc une notification de Family Link, pardon, et tu peux valider ou invalider la demande de l'enfant pour qu'il puisse y accéder. Donc moi, je trouve ça bien. Je sais pas à quel point tu as déjà essayé Family Link ou pas du tout.
Bah, en fait, moi, mes enfants sont beaucoup trop vieux pour que je leur impose Family Link.
Essaye, tu vas voir.
Parce que, non, et puis ils sont même plus à la maison, donc, si tu veux.
Bon, d'accord.
Non, à 26 et 24 ans, je pense pas que ça les intéresse de trop que je surveille les sites sur lesquels ils vont. peut-être que ça se présentera quand j'aurai des petits-enfants. Plus petits, à savoir.
Mais ça. Bon, tu sauras comment faire si jamais tes enfants ont des enfants, tu pourras leur expliquer comment utiliser Family Link et leur navigateur Chrome.
Ça sera plus le cas de figure, ouais.
Dans la continuité, on en a parlé un petit peu, tu en as parlé, Olivier. Google Chrome, la traduction n'est pas forcément hyper folle. Si c'était l'IA qui le faisait, ce serait peut-être mieux. Alors rassure-toi, l'IA arrive dans le navigateur Chrome. Alors petit à petit, hein, étape par étape, step by step. Mais une chose en amenant une autre, on a parlé d'onglets tout au début avec l'enregistrement d'onglets. Google vient d'intégrer alors attention, pas encore en France. Hein, il faut être pour l'instant aux États-Unis et en langue anglaise. Donc si tu te mets avec un VPN aux États-Unis, si ton navigateur est en langue française, ça ne fonctionne pas, il faut faire les deux. Donc tu pourras organiser les onglets. Alors Chrome va pouvoir te suggérer automatiquement le regroupement d'onglets en fonction des URL, des titres des sites web ouverts pour simplifier la gestion. Donc il va dire, tiens, tout ça, ça va dans le même item. Donc est-ce que tu veux créer un groupe d'onglets de cet item-là avec telle URL, enfin vous l'avez compris, j'arrive pas à le dire, mais vous l'avez compris. Je trouve ça intéressant dans la mesure où, comme moi, tu peux ouvrir des fois des dizaines et des dizaines d'onglets, et puis un de tes collègues te pose une question et tu ouvres un autre onglet d'un autre sujet, et à la fin tu ne sais plus les onglets à qui ils appartiennent, dans quel moment tu les as recherchés, et c'est Chrome qui va te proposer. Alors il t'oblige pas, il te propose, et c'est déjà plutôt bien, à créer à organiser tes onglets de façon à les mettre tous les similaires ensemble, en fait. Bien ou pas bien une solution comme ça?
Aucune idée. Je pense qu'il faut voir à l'utilisation. De toute façon, pour l'instant, comme tu le dis, on n'est pas concerné. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sortent liées à l'IA chez Google et qui restent pour l'instant uniquement aux États-Unis. Ça devient agaçant. Ouais. On aimerait bien, nous aussi, Monsieur Google, que tu nous envoies tes nouveautés.
Ça arrive petit à petit. Hein. On le voit, Gemini qui est arrivé, qui est disponible. On en avait parlé, hein, d'ailleurs, Olivier, qui est maintenant disponible en France. Ça marche bien. Mais sur Chrome, effectivement, c'est un petit peu plus long. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes liés à la langue? Je ne sais pas. À voir prochainement. Mais ça devrait plus tarder. Hein. C'est arrivé au Québec déjà. On avait eu le cas Alexandra Coutelet qui était avec nous il y a deux épisodes, nous avait expliqué qu'elle y avait accès. Elle était toute contente. Nous, on ne l'a pas encore, mais ça ne va pas tarder du coup. Pour continuer avec l'IA, l'intelligence artificielle, on a une nouvelle solution, enfin, je crois que c'est Laurent ou Jean-Luc qui en avait parlé, de créer des thèmes. Tu sais, sur Chrome, tu peux mettre des thèmes, une couleur prédéfinie, un fond d'écran prédéfini, des polices de caractère définies. Sauf que, bon, bah, des fois, on est un petit peu à court d'imagination, moi particulièrement, surtout quand ça s'agit de design. Google s'est dit, bon, bah, vu que les humains sont faibles et n'ont pas d'imagination, je vais leur proposer de créer moi-même des thèmes via une intelligence artificielle. Donc, il sera donc possible de créer des thèmes uniquement dédiés à Chrome. Ce sera une combinaison de couleurs, d'images, de fonds d'écran qui sera totalement générée par Gen AI sur votre navigateur. Alors, bon, c'est pas une folie, mais pour ceux qui aiment mettre des stickers partout sur leurs ordinateurs et puis avoir un navigateur un petit peu différent, pourquoi pas, un style à soi, une ambiance, pourquoi pas ? Qu'est-ce que t'en penses ?
C'est un poil gadget ?
Un petit peu.
Mais non, pourquoi pas, après ça peut être marrant, mais voilà, j'ai jamais effectivement pris la peine de mettre de thème tout court sur mon appareil, donc à part mes photos en fond d'écran sur le Chrome OS, c'est tout ce que j'ai personnalisé.
Ouais, je suis donc, un peu dans ton esprit. Voilà,
après, hein. ça peut être rigolo de jouer 5 minutes avec, et puis d'avoir éventuellement un coup de cœur pour un thème, why not, mais ouais, pour moi c'est vraiment gadget ça.
C'est ce qu'on retrouve hein, de toute façon dans la gamme Pixel. Hein, on peut créer des fonds d'écran personnalisés via la génération d'images. Donc tu peux lui dire tiens, j'aimerais un vélo au soleil couchant sur une route voilà, et il génère une image. Donc j'imagine.
Goldorak qui vole sur un soleil couchant, ouais, ça c'est bien ça.
Par exemple, oui, effectivement, hein, ça peut être une solution. Donc cette fois, ta mauvaise expérience de dessin va être gommée grâce à l'intelligence artificielle qui fera tout ce que tu lui dis de faire. C'est pas génial ça. D'ailleurs, en parlant d'imagination, des fois, on en a besoin quand on vient à rédiger des textes. Alors moi, peut-être encore plus que certains. Vous le savez, sur My Chromebook, on fait des articles tous les jours. Et des fois, c'est compliqué de trouver une tournure de phrase, de changer un mot, parce qu'on a la redondance hein, de temps en temps, des mots qui viennent, qui sont tous les mêmes et un peu compliqués à gérer. Grâce à Chrome, Google nous amène de l'intelligence artificielle sur le web. Alors ça va être juste hyper intéressant. Tu vas pouvoir démarrer un processus de rédaction et d'écriture avec tous les champs qui sont disponibles à l'écriture. Tu as un mail, tu veux taper du texte, tu vas taper du texte et tu pourras le reformuler, tu pourras le retravailler de façon formelle, de façon sympathique, ironique, etc., etc. On vient de l'avoir d'ailleurs pour ceux qui ont des pixels sur l'application messagerie, les SMS de Google, l'application SMS de Google, où on peut maintenant changer avec l'intelligence artificielle le texte. Donc tu tapes ton texte et tu lui dis de le modifier, et ça arrive sur Chrome, et c'est plutôt intéressant parce que ça va être vraiment sur la totalité des champs texte. Je sais pas où tu peux imaginer l'utiliser, Olivier.
Surtout les formulaires de contact par exemple, quand tu écris à une entreprise sur le SAV ou que sais-je, ça peut être intéressant. Dans les chats aussi, en ligne, hein, tout simplement. Parfois, enfin moi j'utilise pas mal des trucs comme Messenger ou autre avec la famille, mais j'aime bien utiliser la version en ligne, parce que j'aime bien avoir un grand écran. Donc ça peut être sympa. Enfin bref, oui, il peut y avoir pas mal d'utilisations. Là, pour le coup, je pense que c'est beaucoup plus intéressant comme news que les thèmes pour son Chrome. Parce que là, pour le coup, ça va vraiment parfois peut-être débloquer aussi. C'est vrai qu'il y a des fois on crache, comme tu le disais un peu, le texte comme ça, et puis on se dit, ouais, c'est pas terrible. Et puis si effectivement une IA peut le reformuler, le, lui donner un ton plus agréable. Ou il y a d'autres situations aussi, quand on écrit, on ne se rend pas compte qu'on est assez agressif dans la façon dont on l'écrit, ou alors qu'on ne l'est pas assez en fonction de ce qu'on veut faire passer comme message. Ça peut être intéressant de rendre plus formel un texte, de le rendre plus joyeux, etc. Et d'avoir une petite aide comme ça par l'IA, c'est toujours intéressant. On n'est pas tous toujours en forme au moment d'écrire un message, donc être aidé, ça peut être que bien.
Ouais, et alors je vais rebondir parce que Alain nous dit, lui, il utilise des thèmes, donc tu vois, ça peut peut-être lui servir les thèmes IA pour mieux repérer les différents comptes du premier ouais, en un coup d'œil. C'est plutôt malin, effectivement, un rouge, un bleu, tu peux pas te tromper comme ça. Et puis, il me demande si ça va apparaître dans les emails, évidemment, tout ce qui sera champ texte pourra être rempli, donc on peut l'imaginer dans Google Docs, dans Google Sheets, on peut l'imaginer un petit peu partout finalement. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que du coup, il va peut-être servir aussi de correcteur orthographique ou de tournure de phrase. Ah, ou attention, indirect, je suis désolé, il y a Jean-Luc. Bonsoir Jean-Luc, qui fait une apparition rapide, furtive, mais à chaque fois qu'il en fait une, elle ne passe pas inaperçue. Merci à Jean-Luc qui nous soutient encore et encore ce soir avec un super sticker. Merci à toi, et si vous voulez faire comme Jean-Luc, nous soutenir financièrement, vous pouvez le faire évidemment sur YouTube, mais sur Patreon, en allant sur patreon.com/mychromebook, et si vous voulez le lien que vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à nous le demander, hein, on sait jamais, hein, si vous avez vraiment envie de nous soutenir comme ça. Et puis si c'est pas financièrement, n'oubliez pas de partager nos contenus à tout le monde, ça nous fait toujours plaisir d'échanger avec beaucoup de monde, et surtout sur le Discord, c'est bien, t'as vu, je sais pas si t'as vu d'ailleurs Olivier, on est passé à 700 membres, alors ça oscille, on est à 600, 699, 700, 600,
voilà, en fonction des arrivées et des départs,
voilà, ouais. En ce moment on oscille, mais on a passé une belle barrière, imaginons être à 1000 d'ici peu, ce serait juste exceptionnel, surtout que le Discord il grandit, alors maintenant on parle de tout, hein. On parle même de cuisine, on parle d'à peu près tout,
donc il n'y a plus de plats préparés par Mister Robot, ouais.
C'est ça. Donc allez-y, allez sur le Discord si vous voulez. Ah là là, un deuxième. Ah non, mais ça n'arrête plus ce soir. Merci beaucoup. Alors comme Jean-Luc nous dit, Mister Robot qui nous fait son super sticker lui aussi. Merci à vous deux. Vous êtes juste exceptionnels et géniaux. J'irais bluffant parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas dit. Ouais, merci à vous de votre soutien. Ça fait vraiment plaisir. On continue, ça te dit de partir sur Chrome OS 122 peut-être.
Allez.
Quelque chose qui nous touche beaucoup de plus près. Des fonctionnalités qui viennent simplement améliorer celles qui existent déjà. Hein. Il n'y a pas de grosses innovations. Par contre, elles sont plutôt intéressantes. La première, on en parle très souvent, c'est l'application Screencast. Je sais que tu l'utilises. On est nombreux à l'utiliser pour faire des... Donc Screencast, pour ceux qui ne le savent pas, ça permet simplement de faire des tutoriels, des cours en ligne, du partage de vidéos et de textes et d'audio.
Pardon. Et puis, ouais. Et puis la webcam avec. On peut retoucher le texte parce que ça fait la transcription en même temps. Enfin bref, c'est un super outil.
Ouais, alors dans la nouvelle version, la version de Chrome OS 122, ils vont améliorer la fonctionnalité avec la transcription automatique de l'audio en texte et la possibilité cette fois de découper directement. Si tu supprimes un mot, ça supprime la vidéo, enfin la partie de la vidéo qui était en train de parler de ça. Et c'est juste énorme pour faire de la correction de vidéo. Tu peux supprimer autant que tu veux, juste avec, tu sélectionnes le texte, tu fais supre. Et ça t'a coupé ta vidéo au bon endroit, sur le bon time code, et ça en une seconde. Alors, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de la tester, cette nouvelle fonctionnalité, Olivier.
Encore, mais ça va être super sympa. Il y a un autre truc qui serait super sympa, c'est que Screencast détecte les E et qu'on puisse les supprimer, tu sais.
Ouais, là, ce serait vachement pratique.
Parce que tous ces tics de langage, moi je sais que c'est souvent des E comme ça qui traînent à droite à gauche. S'ils pouvaient les repérer et puis me les squeezer automatiquement, c'est des minutes, des quarts d'heure ou des demi-heures ou des heures de montage vidéo en moins.
Ouais, et tu vois, justement, en parlant de ces fameux tics de langage, j'essaye désespérément de me mettre dans le montage audio-vidéo. Alors du coup, j'utilise CapCut, je ne sais pas si tu connais, donc ça appartient à la maison mère de TikTok. Et justement, ils ont intégré la suppression des tics de langage. Donc tu prends ta vidéo, tu la mets dedans et ils suppriment les tics de langage. Génial aussi. Et ils ont la même partie, donc tu coupes le texte, enfin ils te transcrivent le texte, tu coupes, tu supprimes le mot, ils te suppriment la vidéo automatiquement. C'est un gain de temps assez impressionnant.
Ouais,
au pire, hein, tu prends la vidéo que Screencast a fait en attendant qu'il fasse mieux et puis tu la colles dans CapCut. Hein. Hyper intéressant et c'est gratuit, hein, qui plus est. Hein, alors il y a des versions pro hein, sur CapCut, mais il n'y en a pas besoin pour utiliser cette fonctionnalité, en tout cas aujourd'hui. Autre fonctionnalité que j'utilise tout le temps, j'abuse, j'en utilise, mais vraiment tout le temps, parce que j'écoute beaucoup de musique, je regarde beaucoup de vidéos, et j'utilise donc le lecteur multimédia qui est en bas à droite dans la barre, dans l'étagère, pardon, de Chrome OS. Je ne sais pas si tu l'avais déjà remarqué, tu sais, c'est ce petit icône avec quatre petits traits, puis une note de musique qui apparaît tout en bas à gauche de l'heure. Et quand tu cliques dessus et que tu as lancé un élément multimédia, donc que ça soit de l'audio ou de la vidéo, bah cette fois, la mise à jour apporte des boutons plus grands, les couleurs sont assorties de ces boutons à ton fond d'écran, donc Material Design et vraiment Material You du coup, et ça améliore grandement l'interface, et puis moi j'utilise beaucoup la fonction que Picture in Picture qui apparaît directement dedans et le casting sur les autres appareils, donc quand je caste la musique de mon Chromebook, je l'envoie vers une enceinte Nest ou sur mon home cinéma ou sur les Google Hub, enfin bref, tout apparaît dedans, tout a été refondu en matériel ou matériel design pour donner plus de lisibilité, plus de simplicité et c'est vraiment génial. Je sais pas si c'est quelque chose que tu utilisais.
Non, je suis en train de chercher après le lecteur multimédia, moi je l'ai pas à côté de l'heure ce truc là.
Alors, il faut lancer quelque chose peut-être, il faut lancer une vidéo.
Encore un flag.
Non, pas de flag, non, tu l'as pas. Quand tu lances une audio, je pourrais partager mon écran. Tu crois que j'arrive
quand
à partager
quand on lance un fichier multimédia, d'accord. Oui, moi, je l'utilise comme ça, c'est-à-dire que quand je lance un fichier, et puis effectivement...
Il apparaît en bas à droite, normalement, près de, enfin, à gauche de l'heure.
Il l'avait par défaut, c'est ça qui me...
Après, tu peux l'épingler.
Ok.
Une fois que tu l'as par défaut, tu peux épingler, il apparaîtra tout le temps. Mais bon, est-ce que c'est intéressant de l'épingler quand tu n'as pas de choses en lecture? Je dirais que non. Mais après, c'est à toi de voir. Hein.
Comme je regarderai,
ouais. Mais c'est très sympa à utiliser parce que c'est super beau. Ils ont maintenant, alors j'ai activé un flag, mais il y a un flag qui te permet d'avoir une petite vague quand la musique bouge, enfin à hauteur de la voix en fait. Moi je trouve ça sympa, ça sert strictement à rien et c'est pour ça que c'est hyper important de l'avoir. Et puis moi le cast est vraiment super bien fait. Donc pour ceux qui sont sur Chrome et pas sur un Chromebook, en fait quand ils ont une vidéo, je vais prendre YouTube, pas YouTube, une vidéo autre que YouTube sur n'importe quel site web, il faut lancer la vidéo dans la barre avec toutes les icônes d'extension, va apparaître le cast, tu cliques dessus, ça va ouvrir tous les casts et ensuite tu vas pouvoir caster sur tes produits, hyper long et chronophage. Là il est toujours en bas, je clique et hop j'envoie directement sur mes produits et tu as toute la liste des produits. Ce qui est génial c'est que tu peux caster sur plein de produits si tu le souhaites.
Ouais.
Il y a Jean-Luc, ah bonsoir Jean-Luc, merci d'être resté, et qui nous dit ah les flags quand tu nous tiens, d'ailleurs on va y venir un petit peu
après.
On a le spécialiste des flags. Essayez, je vois que Méziana découvre Screencast ce soir. Pour y accéder à un Screencast, tu vas simplement dans le lanceur d'application, puis tu tapes Screen, S-C-R-E-E-N, Cast, et puis tu vas le trouver directement. Et tu vas voir, c'est génial pour faire une remontée à tes développeurs, par exemple, hein, tout simplement. Des fois, un bug, ça peut être hyper intéressant. Dernier flag que je voulais. Jean-Luc me perturbe. Dernière fonctionnalité que j'ai relayé sur Chrome OS 122, c'est l'économiseur de batterie. Chrome OS 122 a introduit l'amélioration pour prolonger l'autonomie de la batterie en incluant un réducteur de la luminosité de l'écran, du rétroéclairage du clavier qui limite le taux de rafraîchissement et de calcul qui est disponible lorsque ton ordinateur n'est pas branché électriquement à une prise, donc qui est sur batterie. Il désactive toutes les fonctions qui sont énergivores, qui tourne en arrière-plan. Ça t'évitera de te retrouver avec une batterie qui fond comme neige au soleil. Et ça permet cette fonctionnalité de s'activer à partir du moment où ta batterie atteint seulement 20% d'autonomie pour éviter de te retrouver à dans les 5-10 minutes à chercher une prise électrique désespérément. Là, avec 20% de batterie sur un Chromebook, tu tiens quand même un petit peu de temps. Apparemment, Enfin, l'économiseur de batterie, si tu l'avais déjà activé, je crois, Olivier, d'ailleurs.
Oui. Bah, en fait, je le fais même moi-même par réflexe, c'est-à-dire que je baisse la luminosité, je fais attention à ce genre de choses quand je vois que la batterie diminue. D'autant plus que, comme je te le disais avant qu'on soit en direct, mon Spin 713 commence à avoir des faiblesses au niveau de sa batterie. Bon, il n'est pas tout jeune, le pépère, mais donc quand je fais un diagnostic, oui, il me dit que 76% de batterie seulement de sa capacité initiale me reste quand il est chargé à bloc. Donc, écoute, je vais pouvoir peut-être reprendre un petit peu de temps de batterie avec ça. On n'est tellement pas habitué à être en rate de batterie avec un Chromebook que quand ça se présente, enfin, en rate de batterie, il faut quand même qu'il fonctionne ardemment pour pouvoir lui sucrer toute sa batterie, mais malgré tout, on n'est tellement pas habitué qu'on est surpris maintenant.
Ouais, effectivement, hein, cette solution-là est plutôt intéressante, au-delà d'augmenter l'autonomie batterie, enfin de s'activer au moment où la batterie est la plus faible et donc de donner un peu plus de durée de vie à ta batterie dans la journée, ça va aussi diminuer l'usure de ta batterie puisque tu vas devoir la recharger un peu moins souvent, donc ce qui fait qu'il y aura des cycles de charge supplémentaires que tu pourras faire la durée de vie de ton Chromebook.
Ah oui, quand on s'en sert comme pour lire, moi ça m'arrive souvent de l'utiliser, comme c'est un spin, bah, je le retourne et puis je m'en sers pour lire dans mon lit. Et bah là, forcément, on peut baisser la luminosité. On n'a pas besoin que l'ordinateur soit vaillant comme pas possible. Hein. On a juste besoin qu'il affiche une page et qu'on tourne la page quand on en a envie, c'est tout. Donc, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de capacité.
C'est ça. Donc, tu n'es pas le seul. Idem sur le 713 de Dominique, qui commence à lui aussi avoir une petite baisse de batterie. Alors, je vous rassure, j'ai aussi un 713 qui lui aussi. Alors, moi, je lui ai mis beaucoup de cycles de charge, hein, par contre. Donc, je ne suis pas sûr d'être le bon élément de comparaison. Si vous voulez un crash test, je peux être le crash tester sans problème. Hein. Petite chose. Certains me disent que depuis que l'économiseur de batterie est actif, leur batterie se décharge plus vite. Alors, est-ce qu'il y a un bug ou pas, ou est-ce que c'est certains appareils qui réagissent moins bien à cette fonctionnalité-là, ou des extensions à vérifier. Donc, dites-le-moi dans les commentaires si vous avez vu une différence depuis que Chrome OS 122 est arrivé et que l'économiseur de batterie s'est activé, si votre batterie fond plus vite ou pas. On continue une dernière chose, et c'est une annonce en fait qui n'a rien à voir avec Chrome OS 100 ou Chrome OS tout court 122. Hein. C'est une nouvelle rubrique qui est apparue sur mychromebook.fr. Vous l'avez peut-être vu. C'est un de nos fidèles lecteurs, un de nos piliers, un de nos soutiens, peut-être le plus grand, le plus grand chercheur de flag au monde, qui vient nous soutenir en nous apportant de son savoir un petit peu au fil de l'eau, en nous créant une rubrique qui s'appelle la rubrique Feature Flag. Pardon. C'est Jean-Luc qui officiait déjà sur TweetX, sur tous les réseaux sociaux, en apportant sa pierre à l'édifice et en donnant tous les flags qu'il découvrait au fil de l'eau, en expliquant à quoi ils servaient. Et on s'est proposé mutuellement. Lui est arrivé en me disant « Eh tiens, j'ai une idée. » Je lui dis « Ah, moi aussi. » Et l'idée, étonnamment, c'était la même. Et c'est fou comme quoi les grands esprits se rencontrent. On a décidé ensemble, quand il y avait un flag intéressant, de vous proposer dès qu'il pouvait le trouver, dès qu'il en avait le temps. Donc, au fil de l'eau, vous retrouvez des articles très courts, mais très sympas, sur des nouveaux flags qu'ils testent et qui vont arriver prochainement, très certainement, sur Chrome OS, et qui vont apporter des solutions hyper intéressantes. Alors là, il n'y a pas d'heure. Hein. On a des articles d'habitude à 8h, à 18h, mais là, alors là, ça peut être à 10h, ça peut être à 14h, peu importe. Quand ils arrivent, vous les aurez. Je ne sais pas si tu avais déjà vu les 2-3 articles qui sont déjà sortis, puisque ça fait une semaine seulement, Olivier.
Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi les flags c'est pas trop ma cam, mais j'ai vu la rubrique apparaître et c'est sympa parce que ça permet déjà de suivre et de se mettre à jour aussi. C'était un travail que Jean-Luc faisait sur le Discord, où il maintenait un peu notre connaissance comme ça de ce qui apparaît, de ce qui disparaît au niveau des flags. Faites le test, hein, allez sur Discord, dites bah oh, c'est marrant, je trouve plus ce flag, et puis hop, vous aurez une réponse de Jean-Luc dans les 5 minutes qui va vous dire oui, mais alors en décembre 2022 le flag était apparu, il est reparti. Enfin, bon. Bref, il, non, il a une connaissance du sujet vraiment approfondie, et ça promet pour tous ces articles liés à ce sujet-là.
Ouais. Ouais, merci, merci beaucoup. Dominique nous dit Jean-Luc, le tonton flagueur. Et effectivement, ça lui va très bien. Merci. Merci pour le petit surnom. Alors, j'ai fini avec le tour des nouveautés Chrome OS 112. Et je voulais parler avec toi d'une chose qui me semblait être hyper intéressante et peut-être qui va toucher énormément de monde en Europe. En tout cas, c'est la mise en place de la DMA et des impacts que ça peut avoir sur la tech en général. Et évidemment, on va le recentrer sur le sujet qui nous intéresse le plus, nous, sur tous les produits liés à Google. Alors, dis-moi, Olivier, qu'est-ce que tu en as ressorti? Qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que pour moi, tout ce qui est loi, c'est toujours un petit peu, comment dire, nébuleux et très complexe.
Ben, je te rassure, pour moi aussi. et donc, ben, Nicolas m'a proposé de vous faire un retour sur un sujet d'actualité, hein, brûlant, qui est celui du Digital Market Act et qui va impacter nous, consommateurs, mais aussi les géants de la tech, comme Google. Donc, disclaimer, hein, je ne suis pas juriste. Donc, merci pour votre indulgence. Si je suis passé à côté d'informations capitales sur le sujet, bah, indiquez-les dans les commentaires en dessous de la vidéo YouTube. Et même chose si je fais preuve d'approximation, hein, corrigez-moi. Au contraire, ça fera que bondir la visibilité de la vidéo et du podcast. Donc, la DMA, c'est quoi? Bah, c'est une initiative législative européenne ambitieuse qui va impacter le marché du numérique pour le rendre plus équitable et plus ouvert. Elle se concentre essentiellement sur les grandes plateformes qui sont dénommées gatekeepers dans la loi, et donc forcément Google et nos Chromebooks vont être directement impactés par la DMA. Donc, je vais dire DMA, hein, parce que Digital Market Act, c'est dur. donc, on va voir comment cette nouvelle réglementation pourra influencer l'accès aux services de Google et aux services des géants de la tech en général. Quels changements pourraient survenir suite à l'application de cette DMA par l'Europe. Et comment justement des géants de la tech comme Google vont s'adapter, s'ils s'adaptent à ces nouvelles règles. Alors, donc déjà, je voulais faire un tour sur le contexte, d'où sort la DMA et quels sont les objectifs de cette loi, quoi. Donc bref, les origines et les ambitions. L'Union européenne, donc, a toujours été en avant-garde sur la régularisation du monde numérique. On l'a vu exactement. Et puis, on l'a vu aussi avec les lois qui sont à l'étude sur l'intelligence artificielle et qui risquent de réguler aussi l'intelligence artificielle. Et donc, le DMA, c'est un peu dans cette veine de réglementation que l'Union européenne nous sort pour réguler le monde de la tech. On voit clairement que les géants de la technologie ont de plus en plus d'influence sur l'économie numérique, que ce soit effectivement Google, Facebook, enfin Meta, Apple et bien d'autres. On peut mettre maintenant OpenAI et Microsoft dans la boucle, bien sûr. Et l'UE donc a identifié le fait qu'il y avait un besoin d'une réglementation plus robuste pour favoriser le comportement, pour favoriser la concurrence et défavoriser les comportements anticoncurrentiels, pour faire en sorte finalement qu'il y ait une certaine équité dans le monde numérique pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quoi.
Ouais, et donc, je te coupe, il y a Didier qui nous dit que ça concerne donc les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, tous ceux que tu nous as cités, mais je crois que même ça va plus loin.
On va le voir, oui, ça concerne effectivement les GAFAM, mais ça concerne aussi en fait, tous ceux qui offrent une plateforme et une visibilité via des plateformes au sens large. Mais on va revenir sur justement qui est concerné. Ça les concerne eux, mais du coup, ça concerne aussi les PME, on va le voir, mais ça concerne aussi nous en tant qu'utilisateurs de tous ces outils numériques, quoi.
Ok, et du coup, les objectifs de la DMA, c'est pourquoi créer une nouvelle loi, enfin un tas de lois d'ailleurs, j'imagine, pourquoi créer une nouvelle loi et quels sont leurs principaux objectifs ?
Ben, le but de la DMA, c'est d'abord de promouvoir la concurrence. Ouais. Pour eux, la façon dont se construit l'économie numérique actuellement défavorise la concurrence. On peut prendre l'exemple de l'entreprise Apple. Eux ont cette problématique avec leurs magasins de store, les stores d'applications, parce qu'ils imposent l'Apple Store comme unique store d'applications sur leurs iPhones, et c'est vrai aussi pour les MacBooks, je crois, enfin, je ne connais pas bien le sujet, mais enfin, en tout cas, on va parler pour l'iPhone, la DMA demande à cette entreprise d'ouvrir son système à d'autres magasins d'applications. On est typiquement dans l'application de la DMA. Donc, promouvoir la concurrence, c'est une première chose pour faire en sorte qu'il y ait des nouveaux entrants dans l'économie numérique et sur toutes les plateformes. Et qu'il y ait finalement un pied d'égalité, l'égalité des chances, entre guillemets, pour les produits qui sont réalisés par toutes les entreprises. Et in fine, pour nous, en tant que consommateurs, avoir un choix plus large sur les applications et les services que l'on souhaite utiliser. Okay. Le deuxième objectif, c'est limiter les pratiques anticoncurrentielles. Ces gatekeepers, donc, qui sont définis dans la loi comme tels, on s'est rendu compte qu'ils favorisent leurs propres services et la collecte de données pour eux-mêmes. Là, typiquement, on peut prendre l'exemple de Google, qui, via son moteur de recherche avec Gmail ou autre, collecte des données et conserve ces données pour lui.
Oui, effectivement.
Donc la loi, la DMA cherche à faire en sorte de briser ces pratiques anticoncurrentielles. Et le troisième objectif, c'est de protéger les consommateurs pour leur permettre d'accéder à une variété de services beaucoup plus large, donc pas uniquement centré sur les services proposés par ces gatekeepers, donc par ces GAFAM et consorts. Ces gatekeepers, la définition, donc juste pour finir par rapport à ça, c'est éviter d'enfermer les consommateurs dans un écosystème particulier.
Okay, oui.
Ils doivent pouvoir continuer à avoir le choix des applications qu'ils souhaitent utiliser et des services qu'ils souhaitent utiliser. Donc, la définition des gatekeepers par ceux qui ont écrit la DMA, c'est une plateforme en ligne qui joue un rôle d'intermédiaire crucial pour atteindre le consommateur. Donc, les critères, c'est avoir une forte position sur le marché, par exemple le Play Store, par exemple l'Apple Store, par exemple Meta avec sur les casques de réalité virtuelle ou ce genre de choses. C'est aussi une plateforme de service qui sert en fait de porte d'entrée pour accéder aux consommateurs. Et en fait, c'est avoir une position durable sur le marché, souvent déterminée en fonction du nombre d'utilisateurs qu'on va avoir. Forcément, une plateforme qui va revendiquer 100 000 utilisateurs n'a pas du tout le même poids et va pas forcément flaguée comme étant gatekeeper. A contrario, une plateforme forcément comme l'Apple Store, avec ses millions, voire ses milliards d'utilisateurs, elle va être identifiée comme telle.
D'accord. Donc l'idée, c'est en gros, ça peut être tout et n'importe quoi. On pourrait même imaginer une société française intégrer ce service-là parce qu'elle a, elle a un service en ligne, donc avec une position forte sur son marché. Donc on pourrait imaginer, je vais dire n'importe quoi, mais j'ai en tête peut-être GoPro qui était très, qu'un store qui permet de rajouter des applications, qui est très présent sur le marché. Il pourrait peut-être rentrer dans ce système-là puisque finalement il enferme ses consommateurs dans son écosystème et garde ses données précieusement. Google, on peut l'imaginer très facilement avec son moteur de recherche et Chrome, hein, forcément, puisque l'idée, c'est de rester très axé autour de son navigateur. On le voit avec toute la galaxie d'applications qui sont étroitement liées à son navigateur web et à son moteur de recherche. Donc, ouais, effectivement. Et puis, position durable, donc durable dans le temps, mais aussi le poids qu'elles ont sur le marché, donc Google, Apple. Ouais,
C'est vrai que GoPro pourrait être rentré dans cette définition à partir du moment où ils auraient un nombre conséquent d'utilisateurs et s'ils avaient vraiment une position forte sur le marché de la caméra sportive, quoi.
Ouais.
Donc là, pour le coup, la concurrence est encore assez ouverte, je pense. Donc après, forcément, ça va être du cas par cas sur l'identification de ces gatekeepers. Mais je pense que la liste est déjà bien, bien travaillée par nos chers parlementaires européens.
Moi, j'ai en tête également TikTok, typiquement, qui n'est pas
Oui,
américain, puisque
complètement.
qui fait partie, qui a une masse de clients, de consommateurs, qui est juste exponentielle et énorme aujourd'hui et qui récupère ton information autant qu'elle peut. Donc, oui, donc il n'y a pas que les GAFAM, il y a aussi. J'ai plus en tête les GAFAM, mais côté chinois, donc on a le même anagramme de l'autre
Ouais,
côté, mais je ne l'ai
je
plus
sais
en
plus
tête.
comment ils ont dit, mais oui, il y a Baidu, il y a AliExpress et compagnie.
Ouais. Donc ouais, donc ok, donc une fois qu'on a défini ce qu'était un gatekeeper, comment on peut, enfin, comment on va la principale, quelle est la principale disposition qui est dans la DMA? Est-ce qu'il y a quelque chose, vraiment un noyau central sur lequel la DMA s'appuie pour aller s'éclater sur ces différentes gatekeepers?
Ben, la DMA va imposer des règles spécifiques à ces gatekeepers, donc des interdictions et des obligations.
Ok.
Parmi les interdictions, on va avoir l'interdiction de favoriser leur propre service.
Dur.
Typiquement, si Google favorise Google Shop sur une recherche Google, qu'ils mettent vraiment en avant et puis qu'on ne voit que ça, et finalement que juste une petite ligne en dessous, on va avoir les concurrents. Ça va être interdit par la DMA. Il faut qu'il y ait un pied d'égalité sur les services, les services fournis par la plateforme en question, mais aussi les services concurrents. Il va
Mais
y avoir une obligation, pardon.
on l'a déjà, excuse-moi, mais finalement, on l'a vu apparaître très très récemment. Je faisais une recherche sur Chrome. Je lançais une recherche d'adresse, en fait. Je cherchais un magasin. Je l'ai cherché sur Chrome. Et avant, j'étais habitué à cliquer quand c'était sur Chrome. J'avais la map qui apparaît de Google Maps. J'avais qu'à cliquer dessus et ça me lançait Google Maps. Aujourd'hui, ce n'est plus possible.
Non.
Tu es obligé d'ouvrir Google Maps de l'autre côté et taper l'adresse. C'est dû à la DMA, donc.
C'est bien une résultante de la DMA. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est très récent. Je pense que Google commence à se prémunir pour éviter d'être taxé par l'Europe à ce niveau-là. Il va y avoir aussi une obligation de transparence. Les gatekeepers doivent fournir des informations claires sur les conditions d'utilisation de leurs services, y compris les algorithmes de référencement et de publicité.
Ça va être
Alors là,
facile.
pour le coup, Google est, je pense, particulièrement visé par cette obligation, mais je pense Facebook aussi, hein. Je vois mal quand même, pour l'instant, je ne sais pas comment ça va être appliqué, quelle résultante ça va avoir dans notre vie quotidienne, mais je vois mal Google exposer son algorithme de référencement à 100%, quoi.
En même
Même
temps, c'est
si...
comme si tu donnais la recette du coca à tes concurrents, quoi. C'est
C'est ça.
étonnant.
C'est ça.
Donner ce qui fait de toi qui tu es, c'est assez compliqué. Et je ne sais pas à quel point Google serait pas prêt à payer l'amende plutôt qu'à te donner l'information.
On verra, mais oui, effectivement, c'est bien précisé que c'est y compris les algorithmes de référencement et de publicité. Donc, en gros, le référencement et la publicité, à part Google, je ne vois pas qui est visé, quoi.
Ouais, c'est ça.
La troisième obligation, c'est la facilitation de l'interopérabilité. Là, pour le coup, c'est peut-être plus Apple qui est visé, va savoir. Il faut que les plateformes puissent interagir entre elles pour faciliter, encore une fois, l'accès aux données générées par les activités de chacun. Typiquement, tu joues sur ta console Sony, tu dois pouvoir jouer avec ton petit copain qui joue sur sa Xbox. Quel que soit le jeu, il faut que ça soit interopérable. Même chose pour toutes les applications et puis tous les services.
Et ça pourrait, alors j'imagine des choses, tu me dis si je me trompe, mais ça pourrait peut-être être, si on reprend le cas de la console de jeu, j'ai acheté un jeu sur ma Xbox, maintenant j'ai acheté une PS4, il y a le même jeu, est-ce que mes sauvegardes devront pouvoir passer de l'une à l'autre, alors, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et ce n'est pas possible? Est-ce que ça rentrerait
là? On est vraiment dans l'interopérabilité, donc je ne sais pas s'ils sont allés réfléchir sur les sauvegardes de Cyberpunk de Nico, mais pourquoi pas, enfin, à voir comment ça va être traduit par les entreprises elles-mêmes, hein. Est-ce que cette ouverture sera faite complètement? On en reparlera, hein, sur quelles sont vraiment les conséquences et puis comment ça va évoluer pour ces entreprises et puis pour nous derrière, quoi.
Ouais, effectivement. Et
la dernière.
On le voit sur pas mal de choses. Tu prends les consoles, c'est un exemple hyper intéressant parce qu'en fait, le store des consoles est très limitant, hein, puisque tu vas acheter un jeu, tu prends la Switch, t'as pas d'autre solution que d'acheter via le Nintendo Switch Store, je sais pas comment il s'appelle exactement. Pareil pour la PS ou pour la Xbox, hein, t'as pas le choix. Donc finalement, c'est des géants, hein, ces structures-là, dont une qui appartient à Microsoft quand même, l'autre à Sony. Donc c'est des mastodontes qui devront sûrement être impliqués être impacté par la DMA, d'ailleurs.
Clairement, ils devront, à mon avis, se mettre dans les rangs et faire en sorte qu'on puisse installer des stores annexes, des stores concurrents, pour ouvrir à la concurrence leur console. Ça va peut-être aussi avoir comme effet pervers de remonter le prix des consoles, hein, parce que s'ils ne peuvent pas se rattraper sur le prix des jeux, est-ce qu'ils vont finalement devoir remonter le prix des consoles, parce qu'on sait très bien qu'ils ne marchent pas sur le matériel, voire parfois qu'ils vendent à perte, donc on verra les conséquences, mais bon, effectivement, cette ouverture à la concurrence, c'est vraiment une obligation, elle doit permettre d'installer des applications ou des magasins d'applications tiers, quelle que soit la plateforme. Voilà. Et aussi de pouvoir désinstaller les applications préinstallées par le fabricant. Okay. Ça, c'est clairement indiqué comme faisant partie des obligations des gatekeepers dans la DMA. Donc, on voit vraiment que ça impacte littéralement l'économie numérique telle que on peut la constater actuellement.
Et ça peut ruiner un business plan total, hein, puisque vendre des consoles à perte, c'était pour, comme tu le disais, acheter des jeux sur le store et des jeux exclusifs. Et s'ils n'ont plus la capacité d'aller le chercher, ouais, ça peut changer pas mal de choses. D'ailleurs, peut-être que Satya Nadella nous a annoncé il n'y a pas si longtemps, donc DG Xbox, enfin Microsoft, que derrière, il allait ouvrir le Xbox Cloud Store à la PlayStation. Les jeux dits exclusifs Xbox pourraient passer sur l'APS, donc ça, c'est peut-être en réponse à la DMA. Et d'ailleurs, si ils venaient à ne pas se mettre en conformité, ces géants, est-ce qu'ils risquent quelque chose ou en fait c'est juste attention, on ne sait pas bien, et puis il ne se passera rien?
Ils vont prendre une petite tape sur les doigts, une petite tape via des amendes que l'Europe va pouvoir leur dresser. Des amendes qui pourront atteindre jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial total de l'entreprise pour une première infraction et jusqu'à 20% pour des infractions répétées. 20% du chiffre d'affaires de Google ou de Apple, l'Europe, ils vont se faire des choses en or. Hein.
On a des trous dans les caisses de l'État, donc si jamais on pouvait les récupérer comme ça.
Non, mais tu parlais de, de l'ouverture des jeux Xbox vers Sony ou ce genre d'infos qu'on voit comme la disparition finalement de la réponse directement avec la carte Google Maps sur une recherche. On voit bien que ça commence déjà à avoir des conséquences avant même que finalement tout soit vraiment mis en branle, quoi. Ouais. Donc les premières sanctions ne sont pas tombées, mais on voit que il commence déjà à y avoir des réactions des entreprises de la tech, quoi.
Oui, et on le voit, donc pour l'instant, c'est l'Europe qui initie ça. Hein. Comme la RGPD, le Règlement Général de la Protection de Données, l'Europe l'a mis en place, les États-Unis ont suivi quelques temps plus tard, la DMA pourra peut-être se transmettre à nos amis américains. Et ce qui peut être intéressant, c'est parce que c'est la réaction des géants. Je te donnais un exemple pendant les préparations, juste avant l'enregistrement, où Apple se cale sur la DMA en autorisant la possibilité d'installer un store supplémentaire, un store différent sur ses iPhones. A priori, pour l'instant, il n'y en a pas ou peu. Contourner un peu la problématique, c'est effectivement en Europe, tu peux installer un store alternatif, tu peux télécharger des applications non disponibles sur l'App Store. Par contre, dès que tu sors de l'Union européenne, ce store et ces applications ne seront plus fonctionnelles. Elles seront toujours sur ton téléphone, mais tu ne pourras plus les utiliser, elles seront bloquées parce que c'est dangereux de les utiliser en dehors de l'Union européenne, visiblement. En tout cas, c'est ce que nous laisse entendre Apple et ses différents communiqués de presse. Mais on peut imaginer le voir arriver aux États-Unis et pourquoi pas en Chine. Bon, en Chine, il doit y avoir déjà des mesures assez drastiques.
Mais comme je te l'ai dit, la pompote est un peu taquine, effectivement. Ouais. C'est peut-être même un peu... Enfin bon, voilà, moi j'ai trouvé ça un peu mauvais joueur, mais pourquoi pas. Après, ils se défendent comme ils peuvent.
Alain nous dit, ça serait pas une porte ouverte à des applis vérolées, tout ça.
Alors, si on décide de monter, Alain et moi, un store alternatif pour sous Android, par exemple, on aurait tout intérêt, je pense, de faire en sorte de proposer à nos futurs consommateurs, à nos futurs clients, des garanties sur la sécurité des applications. Si on veut vraiment percer et arriver au même niveau que le Play Store et puis faire une grosse entreprise avec ça, il faut vraiment que les gens aient confiance. Je ne pense pas que ça soit dans notre intérêt de laisser passer des applications verrouillées, sinon le bad buzz risque d'être terrible. Donc, oui. L'ouverture d'Android aux APK téléchargées n'importe où sur Internet, à mon avis, est déjà beaucoup plus dangereuse sur la sécurité des appareils que le fait de pouvoir installer un store alternatif. Après, oui, rien ne garantit rien, donc on pourra trouver effectivement des stores alternatifs peu scrupuleux qui vont proposer des logiciels qui ne seront pas forcément vérifiés et qui pourront être dangereux. Ça restera un argument du Play Store de dire, moi, les applications qui passent par moi sont sûres. Voilà. Mais ça n'empêche pas un concurrent de faire exactement la même proposition.
Ceci dit, sur Android, Google a déjà mis en place des protections, hein, Google Protect, qui scanne la totalité de la mémoire de ton smartphone, en l'occurrence, pour vérifier qu'il n'y ait pas justement des applications vérolées qui auraient été installées, puisque sur Android, on peut installer des applications APK, pardon, comme tu l'as justement dit, et il y a déjà des stores alternatifs qui fonctionnent plutôt bien, et donc Google s'est déjà prémuni de ces problématiques-là, ce que devrait faire peut-être Apple aussi pour que le jeu soit intéressant. Donc je pense que les géants vont travailler différemment et protéger leurs produits différemment.
Aussi, on a parlé des amendes, mais il y a une autre mesure que la DMA propose pour ceux qui ne se mettent pas en conformité, et c'est pas une des mesures, c'est pas la moindre, ce sont des mesures dites correctives, c'est-à-dire que l'Europe pourrait s'immiscer dans l'entreprise pour mener des mesures structurelles ou comportementales et imposer ces mesures aux entreprises. globalement, ils peuvent très bien faire comme la loi antitrust américaine, c'est-à-dire dire bah, Apple, vous ne jouez pas le jeu, donc on coupe Apple en deux, il y aura la partie store et il y aura la partie fabricant de matériel. Alors, dans quel cadre ça, c'est possible, étant donné qu'Apple est une entreprise américaine, je ne sais pas, mais la loi en tout cas prévoit effectivement cette possibilité d'entrer dans la structure et le comportement de l'entreprise et imposer des choses. Et ça peut être aussi assez violent pour ces géants-là.
Tu m'étonnes. Et comment ils vont faire d'ailleurs pour... Parce que les géants, hein, ils sont parfois plus puissants que certains États. Comment l'Union européenne compte faire respecter la DMA à ces géants? Alors, à coup d'amende, évidemment. Mais moi, je suis Google. Tu peux toujours t'asseoir venir t'asseoir à mon board d'ailleurs.
Google est présent en Europe. Et ils ont aussi un siège européen. Enfin, ils ont, je crois que c'est en Irlande que Google est installé. Ils ont aussi des sièges dans tous les pays européens, et donc l'Europe peut demander à ce que ces principes soient appliqués, ne serait-ce que sur le marché européen. En gros, ils peuvent dire à Google, effectivement, aux États-Unis, vous faites ce que vous voulez, mais Google Europe, ce sera coupé en deux, ou en trois, ou en quatre, il y aura YouTube d'un côté, il y aura la recherche d'un autre, etc., etc. Donc ces mesures structurelles, ils peuvent très bien les imposer sur le sol européen.
Et comment ils vont surveiller tout ça?
Ça c'est une vraie question. La surveillance par la Commission européenne, en fait, il va y avoir une commission qui va être créée et qui sera chargée de surveiller le respect des règles de la DMA par les gatekeepers. Donc cette commission va ou a été nommé, et ils ont un pouvoir d'enquête, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir mener des enquêtes et demander des informations à toutes ces entreprises et réaliser finalement des inspections. Comme on peut avoir des inspections d'hygiène dans nos restaurants, il va y avoir des inspections sur les outils et sur la structure des entreprises concernées, donc ces fameux de gatekeepers. Mais avant tout ça, bien sûr, la première étape, ça va être aussi de rentrer en discussion, de dialoguer avec ces entreprises et de discuter avec elles des préoccupations que l'Europe a vis-à-vis de ces entreprises sur les sujets concernés par l'ADM. Donc sur le fait de les pratiques anticoncurrentielles, etc., tout ce qu'on a dit jusque-là.
Donc du coup, ça peut toucher les Chromebooks également, hein, puisqu'on parle de Chromebook sur le CKB Show, puisque ça appartient à Google. Après, est-ce que c'est considéré comme quelque chose qui est très puissant face à des Mac ou autre chose? Je ne sais pas comment ils vont statuer sur le poids de chaque produit. Est-ce que ça fait partie d'un écosystème? Est-ce que c'est uniquement un appareil en plus? Je sais pas.
Pour l'instant, en regardant tout ça, moi, j'ai pas l'impression que le Chromebook en tant que tel soit trop à craindre, soit trop concerné par le DMA, parce que on peut en faire ce qu'on veut du Chromebook, on peut y installer ce qu'on veut finalement. On a la plateforme Linux, on peut y mettre n'importe quel logiciel dessus. Effectivement, on a le Play Store, mais on peut très bien aller chercher en ligne n'importe quelle application en ligne et ne pas utiliser les outils Google. Si vous voulez avoir DuckDuckGo comme moteur de recherche sur votre Chromebook, c'est tout à fait possible. Donc, pour le coup, je ne pense pas que ces règles, pour l'instant, vont influencer spécifiquement Google vis-à-vis de ses Chromebooks. Ce sera plus vis-à-vis de la recherche et vis-à-vis du fait qu'ils mettent en avant forcément leurs solutions comme Google Maps, comme YouTube ou comme Google Shop, Google Travel, etc. Enfin, toutes les solutions Google qui sont mises en avant habituellement quand on fait une recherche sur Google, quoi.
Je viens d'y penser, là j'ai allumé un nouveau téléphone il y a quelques jours, et sous Android évidemment, hein, et quand je l'ai allumé, j'avais pas fait le rapprochement avec la DMA, mais maintenant qu'on en parle, quand j'ai allumé le téléphone, et on m'a posé deux questions. La première question, quel navigateur web voulez-vous utiliser par défaut? Et là j'avais une liste j'avais Brave, je les ai pas tous en tête, mais j'en avais une liste assez impressionnante, hein, et Google n'était pas tout au-dessus, c'était rangé par ordre alphabétique, donc Google n'était pas tout au-dessus. Et donc j'ai choisi Google, bon, forcément, dans mon cas. Et puis, deuxième question, quel moteur de recherche voulez-vous utiliser ? Et pareil, toute une liste de moteurs de recherche que je voulais utiliser. Donc je pense que Google est déjà en train de se mettre en conformité un petit peu partout. Et ça a été aussi sur mon Pixel, je l'ai redémarré, j'ai fait une mise à jour, je l'ai redémarré, ça m'a demandé ça également. Donc ouais. Tu vois, on voit. Et du coup, quels sont les impacts sur les technologies, puis sur le marché numérique qu'on va avoir avec cette DMA qui arrive progressivement? Et on voit déjà Google, en tout cas pour nous, qui essaye de s'y conformer.
Bah, alors, pour les plateformes, déjà, l'impact, ça va être le fait de... On parlait des algorithmes tout à l'heure. Peut-être une révision des algorithmes pour Google, modifier ces algorithmes pour présenter des services de façon équitable. Si vous cherchez une adresse, bah, il va falloir qu'ils proposent Maps, mais qu'ils proposent aussi d'autres sites et d'autres outils de cartographie. Il va y avoir aussi des impacts sur la gestion des données elles-mêmes. Pour Google, par exemple, il va falloir qu'il y ait une plus grande interopérabilité des données, et ce qui va forcément impacter le fait dont les données sont collectées et utilisées par Google. Et puis, il va y avoir un défi de conformité. Google va devoir assurer, par exemple, que sur nos Chromebooks et tous les outils qui sont concernés, donc par exemple les téléphones Android, qu'ils ne privilégient pas indûment ses propres services ou ses propres applications. Ça répond pile poil à ce que tu viens de dire par rapport à ce choix qu'on a du navigateur, du moteur de recherche. Tu vois, ils ont déjà pris les devants pour se conformer à la DMA. Et faire en sorte que de ne pas être impacté, de ne pas se prendre des amendes de 10% du chiffre d'affaires mondial. Mais donc, on voit qu'il va y avoir des impacts directement pour ces gatekeepers. Enfin, on l'a vu depuis le début. Mais il va y avoir aussi des impacts pour les startups et pour les petites entreprises. Parce qu'elles, elles vont avoir vraiment une opportunité de concurrencer les gros directement sur leur marché. Donc, ils vont avoir un accès qui va être facilité au marché. Avec Alain, on a un projet maintenant de monter un store alternatif sur Android. On va pouvoir le faire, chose qui était peut-être... Alors, sur Android, c'était un mauvais exemple parce qu'on pouvait déjà le faire. Bon, on va le faire sur Apple, Alain, si tu n'y vois pas d'objection. On va pouvoir donc monter un store alternatif sur Apple, ce qui n'était pas possible jusque-là. Alors, certes, limité au marché européen, mais pourquoi pas ? Donc, un accès facilité au marché et puis une concurrence accrue. Et puis, qui dit une plus forte concurrence, c'est bien sûr en limitant les pratiques anticoncurrentielles de ces gatekeepers, les startups vont pouvoir amener beaucoup plus d'innovation. On voit bien qu'il y a pas mal de domaines, à part l'IA finalement en ce moment, il y a plein de domaines où ça ronronne allègrement dans le marché de la tech en ce moment. Hein.
Bien sûr,
oui. Donc, peut-être remettre un petit coup de boost aussi à ce niveau-là.
Et puis, question juste qui me vient en tête là. L'interopérabilité, est-ce que les géants vont devoir fournir les données qu'ils ont récoltées à d'autres sociétés? Si la réponse est oui, je me pose une question par exemple sur Google Maps, puisqu'on parle de Google Maps. Donc, Google a récolté des tonnes et des tonnes d'informations pour créer. Les cartes, la cartographie 3D, le trafic, les choses comme ça. Donc, ça leur coûte des milliards à faire ça. Les Google Cars qui se baladent avec les caméras sur le toit, on en voit défiler partout dans le monde. C'est ce qui donne leur force aussi à leur application Google Maps, c'est d'avoir énormément de données. Imaginons, moi, je m'appelle Apple. Petite société à la pomme, mon outil de cartographie n'est pas ouf par rapport à celle Google, je pourrais récupérer les données de Google pour améliorer directement et simplement mon logiciel de navigation GPS ?
Alors, je pense pas que ça soit comme ça qu'il faut voir l'interopérabilité. Forcément, les données qui appartiennent à Google parce qu'ils les ont construites, elle leur appartient. Enfin, forcément, c'est eux qui ont construit l'outil. Ils sont allés chercher les infos, ils sont allés chercher les données, ils les ont mis en place. Forcément, ce serait pour le coup anticoncurrentiel que n'importe qui puisse toquer à la porte chez Google en disant tu donnes-moi tout ton catalogue et je repars avec. Je le vois pas comme ça. Par contre, est-ce que la loi ne prévoit pas le fait de faciliter des API?
Ouais,
Ce qui existe déjà, encore une fois, pour Maps, mais pas forcément pour d'autres outils. Je ne pense pas qu'il y ait une API sur Google, sur Apple Maps, par exemple.
Ou alors, on peut le voir du côté consommateur, la portabilité ou l'interopérabilité des données du consommateur, c'est-à-dire que ma navigation GPS faite via Google Maps, je puisse l'importer sur l'application Apple Plan, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, pour avoir ma routine habituelle, pour avoir les derniers éléments que j'ai faits. C'est peut-être plus
exactement,
dans ce sens-là.
Ouais, c'est peut-être plus dans ce sens-là, ouais.
D'accord, je comprends.
Les troisièmes qui vont être impactés, bah justement, ça va être nous, les consommateurs, parce évidemment. Qu'on va avoir davantage de choix. On va forcément pouvoir choisir entre plus d'applications et plus de services. On ne va pas être limité aux services des géants. Typiquement, si je suis utilisateur de Google, c'est encore un très mauvais exemple, si je suis utilisateur d'Apple, je ne veux pas être obligé d'utiliser telle appli sur mon iPhone parce que Apple en a décidé ainsi. Je vais pouvoir avoir le choix des applications et des services. Et je vais pouvoir aussi avoir le choix, encore une fois, de ne pas donner mon argent à Google alors que j'ai un Android et je veux faire autrement. Je veux avoir un système de sauvegarde automatique, un système de VPN différent. Donc, je dois pouvoir avoir le choix de auprès de qui on s'allie finalement via les applications. Et puis, on va avoir un meilleur contrôle aussi. On va pouvoir mieux contrôler les applications qui seront préinstallées de base parce qu'on va pouvoir les virer et ne plus être pollué par elles sans pouvoir les retirer. Chose bête, moi j'ai un téléphone Samsung, il y a des applications par défaut que je ne peux pas retirer et ça m'agace. Donc voilà, ça pour le coup, ça devrait disparaître grâce à la DMA.
C'est top, et c'est top, du coup on va pouvoir mieux gérer notre vie privée, mieux gérer nos données, grâce à ça on va pouvoir basculer peut-être nos données d'un appareil à un autre, d'un service à un autre. Je pense à Apple qui limitait le paiement de ses applications uniquement avec le système Apple Pay, qui va pouvoir rentrer, on a tous en tête le procès Epic Games contre Apple sur le sujet du paiement, ou Spotify qui a dû augmenter ses tarifs de 30% parce que Apple prend 30%, il n'avait pas d'autre solution que de proposer le système de paiement par Apple Pay. Donc du coup, on va pouvoir nous économiser un peu d'argent, puisque du coup, peut-être qu'ils ne seront pas obligés de répercuter le coût de la plateforme sur laquelle ils sont à leurs consommateurs. Et puis, on va peut-être pouvoir aussi avoir le choix de notre système de paiement. Donc, si j'ai envie de payer avec Stancer, PayPal ou je ne sais quelle société de paiement en ligne, je pourrais le faire. Et ça plutôt intéressant.
C'est vrai qu'il va y avoir cette problématique des données personnelles. Et pour le coup, Google là, est dans l'œil du cyclone, parce que tout ce qui est gestion des données personnelles, Google pourrait devoir adapter la manière dont il connecte et partage les données des utilisateurs. On voit que pour eux, ça va avoir un impact majeur. Et puis, il va y avoir un impact sur la publicité ciblée. Les changements dans la collecte et l'utilisation des données pourraient affecter les modèles de publicité ciblée de Google. Donc, eux, ils vont vraiment avoir des problèmes justement sur ces deux axes-là. Donc, comment ça va se passer, l'avenir nous le dira. On le verra de toute façon apparaître sur nos machines, parce que comme on réside en Europe, en tout cas pour ceux qui sont en Europe dans le chat, il y a peut-être des Américains du Nord. En tout cas, nous, on va être directement impactés. Ouais. Et les réactions d'ailleurs de ces géants ne se sont pas fait attendre. Tu en as parlé avec Apple et puis leur store alternatif. Il y a eu des réactions variées. Il y en a qui ont accepté cette nécessité de régulation. Là aussi, tu en as parlé avec les exemples qu'on a mentionnés jusque-là. D'autres ont critiqué ou en tout cas ont émis des doutes sur l'importance de cette loi, arguant qu'elle pourrait freiner finalement l'innovation par des contraintes trop fortes. Finalement, pour ces gatekeepers. Mais bon, on voit malgré tout que beaucoup commencent à ajuster leurs pratiques. Donc voilà, en gros, les réactions pour l'instant de ces géants du numérique, c'est ça critique, ça râle, mais ça le fait. Donc, est-ce que ça va continuer comme ça? À part l'exemple de Google avec son store qui sera désactivé dès qu'on va sortir de l'Europe. Les autres, pour l'instant, jouent plus le jeu qu'autre chose. Donc, pourquoi pas.
Hervé nous dit dans le chat, j'ai l'impression de revivre ce que nous avons vécu avec l'électricité, où on nous avait promis que la concurrence allait améliorer le coût de l'énergie, et maintenant c'est le bip, on est sur YouTube, je ne vais pas me faire ban, et la DMA, idem. Alors peut-être pas, on n'est pas dans le même cas, je pense, puisque on parle logiciel, ce qui est beaucoup plus simple à mettre en place, après voir comment les géants vont taxer peut-être le fait d'utiliser leur plateforme aux autres, je sais pas.
Pour l'instant,
il faut bien qu'ils gagnent des sous.
Encore une fois, j'ai essayé de regarder les choses de façon objective. Pour l'instant, j'ai vraiment pas. En fait, clairement, j'ai pas d'avis sur le sujet. Effectivement, j'ai un peu ce ressenti comme Hervé de me dire oulala, c'est quand même une sacrée usine à gaz qui nous ont pendu là. Comment ça va se passer? Est-ce que finalement, et pourquoi Google ou Apple, ou je ne sais qui, dirait pas, et l'Europe, vous commencez vraiment à nous courir sur le haricot, on va tout fermer, et puis vous débrouillerez avec ce que vous aurez. Parce que les contraintes sont vraiment, vraiment importantes, on en a parlé pour Google, leur moteur de recherche, et toutes les données publicitaires qu'ils ont sur nous, sont directement impactées, donc effectivement, j'ai pas d'avis. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que le DMA, c'est pas un truc qui est isolé. Il n'y a pas que l'Europe finalement qui sort ce type de choses. On en a parlé tout à l'heure avec la loi antitrust aux États-Unis. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire aux États-Unis. Beaucoup d'enquêtes liées à cette loi antitrust qui se font sur les géants de la tech aussi. Donc aux États-Unis, ça bouge aussi. En Chine, même chose. Ils ont mis au point des mesures pour contrer un peu le monopole numérique de leurs géants à eux. Donc on voit bien que ça bouge de partout. Et finalement, la DMA, par rapport à ce qui se fait aux États-Unis ou en Chine, a une approche un peu plus proactive, un peu plus basée sur la discussion avec les géants avant de sévir. Ils proposent de discuter et de voir ce qui est possible de faire en préalable, comme on l'a dit, et après, s'ils ne jouent pas le jeu, effectivement, il y aura les amendes et puis des mesures de plus importantes au niveau structurel des entreprises. Mais la première phase, ça reste la discussion. Donc, est-ce que la DMA ferait pas comme le RGPD et finalement servirait pas de modèle pour le reste du monde? On ne sait pas trop. On le verra là aussi. L'avenir nous le dira.
Oui. Je pense que ça va apporter des choses. Bon, moi, la RGPD, il y a un truc qui m'exaspère, c'est le fait de devoir accepter les cookies toutes les 5 minutes. Faudrait qu'ils trouvent une solution autre que me la demander à peu près tout le temps. Mais au-delà de ça, le fait de protéger les données des consommateurs, c'est quelque chose de bien. On n'a pas la meilleure solution aujourd'hui, c'est très complexe, double authentification, vérification, enfin bref, c'est très très complexe, ça devient complexe pour le consommateur final. La DMA, j'espère que ce sera plus simple, plus abouti, et que les constructeurs et les grosses entreprises fassent le nécessaire pour que ça ouvre le marché sans le détruire. Mais on le voit, on peut ouvrir, tu parlais d'OpenAI, ils sont arrivés de nulle part, ils sont devenus des géants quelques temps, donc avec ou sans, on arrive quand même à grossir, à devenir des super géants.
Ils sont pas arrivés de nulle part non plus. Il y avait quand même Elon Musk, Microsoft dès le départ. Enfin, il y avait quand même des gros derrière, derrière une technologie qui commençait déjà à faire ses preuves. Donc, mais oui, enfin, ça veut pas dire que d'autres géants ne vont pas naître. Et peut-être que ça va le favoriser ou peut-être pas. Justement, en fait, le gros débat, c'est autour de l'impact potentiel sur l'innovation. Est-ce que ça va freiner ou est-ce que ça va favoriser l'innovation dans le marché de la tech? Vraiment, finalement, le sujet de la DMA, c'est ça. En tout cas, c'est le débat que ouvrent les géants de la tech sur cette loi. Pour eux, ça va freiner. Pour les startups, ça va la favoriser. Donc, Wait and see.
À voir, l'avenir nous le dira. Moi, j'ai tendance à dire que plus il y a de possibilités qui nous sont proposées, plus il y a d'entreprises qui peuvent en profiter. Après, évidemment, quand tu es un géant, tu n'aimerais peut-être pas qu'on te pique tes parts de marché, je le conçois.
Après, nous, en tant qu'utilisateurs de Chromebook, finalement, pour recentrer la DMA sur le Chromebook, ça peut être une bonne chose dans le sens où, effectivement, on pourra peut-être avoir accès à encore plus de choses. Pourquoi pas avoir ce qui est attendu par pas mal de monde, la possibilité très facilement d'utiliser des applications Microsoft, des applications Windows sur nos Chromebooks, et puis ne pas être avoir des stores alternatifs au Play Store sur le Chromebook. Enfin voilà, ça reste une machine qui est déjà très ouverte, mais qui est aussi dont les données sont quand même particulièrement bien scrutées par la firme Google. Donc, est-ce qu'on pourra retirer ce maillon qu'on a à la patte? On le verra.
On le verra. Écoute, Olivier, voilà. Merci en tout cas pour ce super dossier. Comme tu le dis en conclusion, on verra. C'est une belle conclusion. N'hésitez pas dans le chat à nous dire ce que vous pensez de la DMA. Est-ce que c'est une bonne chose, comme Hervé, hein, exprimez-vous, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires après que la vidéo soit terminée. On va conclure sur le sujet, hein, je pense, Olivier. Merci, un super, super travail que tu nous as fait. Et on va aller. J'ai compris des choses, plein de choses. Déjà, c'est bien. Hein. Enfin,
en tout cas, moi, merci de m'avoir proposé ce sujet-là parce que j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses.
Écoute, bah pareil, c'était parfait, merci en tout cas. On va aller pour clôturer l'épisode qui a un petit peu duré, mais c'était somme toute intéressant, donc j'ai laissé. On va partir sur nos coups de cœur, si tu le souhaites, Olivier. Et puis pour te laisser reposer un peu la voix, je vais donner le mien tout de suite, hein, ça sera peut-être un peu plus simple. Moi j'ai un petit coup de cœur, depuis 4-5 jours, j'ai acheté un nouveau téléphone, enfin j'ai en ma possession un nouveau téléphone qui est le Nothing Phone 2A. Si vous le connaissez pas, c'est une marque, hein, Nothing, qui est une marque anglaise. Merci Olivier pour le correctif, qui a été fondée par Carl Payne. Vous savez peut-être qui c'est le cofondateur du fabricant chinois de smartphone OnePlus, qui était très réputé à ses débuts, où il fallait une invitation pour y accéder. Et il s'est lancé tout seul dans son coin à créer le Nothing Phone. Donc, et il est revenu aux fondamentaux avec le 2A. En proposant un produit hyper intéressant avec une expérience totalement épurée, des fonctionnalités qui sont totalement essentielles, du plastique. Il a gardé tout ce qui est super important, c'est-à-dire la RAM, le processeur, les composants internes, tout ça pour faire un produit hyper quali et surtout à un prix canon, puisque à moins de 350€, on peut déjà avoir un produit avec 8Go de RAM et 128Go de mémoire de stockage, un capteur photo à 50 millions de pixels, avec une interface qui est vraiment super bien chiadée, qui est hyper jolie. Je vous en ai fait un article que vous trouverez normalement qui va arriver jeudi, où je vous en dis plus, et j'adore ce produit, il est hyper intéressant, donc mon petit coup de cœur, 350€, si vous vouliez changer de téléphone, vous vouliez pas aller sur un Pixel, c'est peut-être une solution, hein. Android stock, hein, pas de surcouche logicielle supplémentaire, c'est vraiment un très très beau produit, et j'apprécie beaucoup, voilà mon coup de cœur, Olivier, je te laisse la main pour le tien, et on va parler encore hardware également, je crois, d'après le conducteur.
Oui, désolé, Mister Robot, qui avait posé une question sur les réactions finalement de Microsoft et de Facebook. Microsoft, par rapport à la DMA, je reviens juste deux secondes pour répondre à Mister Robot. Microsoft, la réaction, on a parlé par rapport au jeu, Xbox, hein, ils commencent à ouvrir aussi. Facebook, j'en ai pas entendu trop parler pour le coup. Donc je sais pas. J'ai pas eu de réaction. Oui, moi aussi, j'ai du matos à proposer dans mes coups de cœur. C'est une station d'accueil, parce que j'ai devant moi mon micro, la webcam, deux écrans, plus le Chromebook. Pardon, le tout relié à Ethernet. Mon Chromebook ne ressemble pas à une toile d'araignée, hein, parce qu'il est, branché à une station d'accueil, qui est de la station d'accueil, je vais y arriver, Belkin. INC004BTSGY, merci pour le joli nom. Et donc, il me permet de brancher mon Chromebook comme ça sur cette station, de brancher un tas de trucs sur la station et je n'ai plus qu'à débrancher un fil sur l'USB-C de mon Chromebook pour partir avec sous le bras et de repluguer là-dessus quand j'arrive au bureau et tout s'illumine devant moi. J'adore cette station d'accueil, il y a plein de ports partout, on peut y mettre 3 écrans, il y a le DisplayPort, il y a de l'HDMI, il y a du VGA, il y a plein de ports USB, USB-C, USB-A, USB 3, enfin bref, il y a tout ce qu'il faut. Une super station d'accueil qui est devenue un indispensable pour moi.
Écoute, voilà. J'utilise un équivalent, mais celui-là est beaucoup plus complet, à des prix hyper intéressants en plus.
Non, c'est pas la NASA dédiée chez moi, c'est juste parce que c'est vachement pratique d'avoir plein d'écrans, surtout que je fais quand même pas mal de télétravail, et pour le coup, c'est quand même super confortable d'avoir pas mal d'écrans et tout ce matériel. Justement, en plug and play, ça m'évite de tout rebrancher à chaque coup. Je branche le Chromebook et c'est reparti.
C'est top. Bah, merci beaucoup pour ce coup de cœur. Évidemment, si vous voulez vous procurer l'un de ces produits, dans les notes de l'émission, on a des liens et ces liens sont des liens affiliés. Donc, on touche quelques centimes d'euros à chaque fois que vous achetez un produit. Si vous n'avez pas la possibilité de nous payer via Patreon ou nous soutenir via patreon.com/mycromebook, en faisant vos achats, vous nous soutenez indirectement et ça ne vous coûte pas un centime. Donc, ça peut être une bonne solution également pour nous soutenir. Donc, partagez les liens ou demandez-les-nous. On en a plein, donc dans les notes de l'émission, n'hésitez pas à aller cliquer dessus. Merci Olivier, merci pour ces préparations exceptionnelles. Je vous souhaite à tous une agréable soirée, une bonne nuit, un bon jour ou un bon dîner, peu importe. Et on se dit dans 15 jours pour un prochain épisode du CKB Show. Allez, ciao, bye bye.
Ciao tout le monde. The top of the top.